Bonjour! Attendez, j'ai pas réglé l'objectif. Ah là, là, c'est bon. Bonjour! Bonjour tout le monde! Hop, bienvenue les amis. Comment ça va? Est-ce que tout roule pour vous? Quel jour on est? On est jeudi? Merci Momo. On est jeudi, ouais. Incroyable. Bonjour à tous. Merci Master Legan. Merci Blooby. Merci Tommy. Bienvenue à vous. Est-ce que tout roule pour vous? J'ai été recalé de la guilde, un peu déçu. Ah! Ah! Michel Barnier t'a contacté? Ah, il est un peu aux abois, hein. C'est pas Backseat. Non, Backseat, c'est samedi. Samedi à partir de 18h. Venez, ça va être bien. Ça va être drôlement bien, on vous prépare plein de surprises, plein de... Ça va être très cool. Est-ce que Éric Besson a été contacté? Oh! La blague est vieille. Mais la blague est drôle. Éric Besson, c'est 2007, hein. Non, moi je me suis réveillé malade ce matin. Je suis malade. Tu connais le, tu sais, le réveil où t'as mal à la tête, puis t'as une petite douleur dans la gorge, pas très forte, toute petite. Mais tu sais que c'est le début des emmerdes. Tu sais que ça va être chiant. Et ben voilà, ben moi ce matin je me suis réveillé comme ça. Trop relou. T'as fait quoi hier soir? Mais rien en plus. Rien, j'étais à la maison. On voit qui du chat samedi à la fête? Malek délégué qui demande, il y a qui vient à la fête de l'UMA là dans le chat? Il y en a parmi vous qui savent que vous venez? Et on se retrouve samedi? Y a Taïk qui vient. Il y a Nasty. Un verre de vodka, ça tue les microbes. Ouais, t'as raison. Il y a Delph. Lou Tapon. Eno. Cariplat. Ben, ça fait plaisir. Ben, c'est cool. Gizmal. Attention, il y a beaucoup de Covid en ce moment. Ah ouais, il y a du Covid? Oh putain, j'espère que je vais pas choper le Covid. Oh non. Oh non, mais c'est saut 2020. C'est bon, on est passé à autre chose là. Trop nul le Covid. C'est quoi le nom du variant en ce moment? Parce qu'on a arrêté de suivre les évolutions du Pokémon, nous. Si tu fais pas le test, tu sauras jamais. Ouais, non, bah, je vais aller le faire demain. C'est le variant Barnier. Ah, c'est celui-là. Le variant Barnier, il tape fort. Hein. Attention, 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 il tape fort. Et rendez-nous Olivier Véran. Comment va votre composition du gouvernement aujourd'hui? Bah on n'en sait pas plus, hein. On n'en sait pas plus, hein. Michel Barnier, il a dit Wallah. Il a dit Wallah. Il a dit Wallah, il y aura un gouvernement la semaine prochaine. Ok? On attend de voir. Gouvernement qui devrait aller des Républicains aux Macronistes, a priori. Alors, la question c'est, y aura-t-il des personnalités issues de la société civile, des personnes venant de la gauche? Du mal à l'imaginer. Mais on verra, hein. Ça pue le futur gouvernement entre Wauquiez et Bellamy. Laurent Wauquiez, apparemment, il voudrait avoir le ministère de l'Intérieur. Il y a une espèce de légende comme ça. À droite, il y a une légende comme quoi le ministère de l'Intérieur, c'est un tremplin vers l'Élysée. La raison à ça, c'est Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a été un vibrant ministre de l'Intérieur, tonitruant, omniprésent, en campagne en réalité. Et c'est lui qui a marqué les esprits, d'autant qu'il a fait campagne en 2007 sur le thème de l'insécurité. Donc quand t'es ministre de l'Intérieur, tu fais des apparitions tous les jours sur BFM TV avec des gyrophares, et hop, tu te fais identifier des Français comme le monsieur sécurité. Donc apparemment, Laurent Wauquiez, il se rêve un destin, ça on le savait déjà. Et il voudrait le ministère de l'Intérieur. Ben Valls a été à l'intérieur aussi, mais pas président pour autant. Ah non, non, mais personne. Personne à part Nicolas Sarkozy. Hein. Il n'y a que Nicolas Sarkozy qui est devenu président de la République après avoir été ministre de l'Intérieur. Hein. Aucun autre n'a réussi. Donc voilà. Chirac aussi, non. Non, Chirac n'a pas été ministre de l'Intérieur. Chirac a été Premier ministre. Il a été ministre de l'Intérieur, Chirac ?
Quand ça ?
Il était ministre du Travail dans les années 60. Vous savez que c'est Chirac qui a inventé la NPE ? Ministre de l'Agriculture aussi, ouais. Ouais, c'est ça, il était secrétaire d'État au Travail en 68. Ah ouais. Il a été 3 mois ministre de l'Intérieur ? Ah ouais ? Énorme. Eh ben, il a pas marqué, hein. Alors, dans la biographie du bonhomme, député européen, maire de Paris. Hop. Président de la République, tout à fait. Membre du Conseil constitutionnel, Premier ministre, député européen, maire de Paris, président du RPR. Ministre de l'Intérieur, effectivement, entre février et mai 1974. Donc avant Giscard. Ah, c'est marrant. J'avais complètement zappé ça. L'agriculture, il l'a été pendant 2 ans. Relation avec le Parlement. Président du Conseil Général de Corrèze, évidemment, pendant 9 ans. 9 ans. Et ministre de l'Économie et des Finances pendant 3 ans. Ah non, vous savez ce que c'était l'intitulé de son secrétaire d'État au travail ? En 1967, il était secrétaire d'État aux problèmes de l'emploi. C'était le nom, l'intitulé de son ministère. C'était secrétaire d'État aux problèmes de l'emploi. À l'époque, on était dans le concret des Français, de la vie de tous les jours. Pourquoi est-ce qu'on fait pas un ministère de l'Intérieur qui s'appelle le ministère aux problèmes des jeunes, aux problèmes de la jeunesse ? Donc bref, il a été ministre de l'Intérieur en 1974, il est devenu président de la République en 1995. Donc autant vous dire que ça n'a pas été un tremplin. On est loin du tremplin. Secrétaire d'État au Larcin. Secrétaire d'État au menu Larcin. Au menu Larcin du quotidien. Contre les chenapans. Donc actuellement, Michel Barnier est Premier ministre au problème du gouvernement. Il s'attelle à sa tâche. Il consulte. Alors là, il est allé rencontrer les Républicains, il est allé rencontrer le MoDem. Il discute, il fanfaronne. Il y a des institutions de ministères assez dingos, genre le ministère des gens. Ça a vraiment existé, ça, le ministère des gens ? J'ai pas le souvenir, hein. Peut-être pas en France. Bah, on verra bien ce qui va nous sortir sur sa cette liste finale. Hein. Ce sera la semaine prochaine. Je vous rappelle que la rentrée du Parlement se fera a priori à partir du mardi 1er octobre. Je ne sais pas si on commence direct avec une séance de questions au gouvernement. En tout cas, il y aura un discours de politique générale, ça c'est sûr. Discours de politique générale suivi d'une prise de parole de tous les représentants des différents groupes à l'Assemblée. Il y aura pas de vote à l'issue. Il va pas demander la confiance, il est pas fou. Par contre, il y aura une motion de censure qui va être déposée très vite. Donc il y aura un vote de censure. La question qui est intéressante à se poser, c'est quel est le niveau d'autonomie de Michel Barnier par rapport à Emmanuel Macron ? Est-ce qu'il est l'obligé d'Emmanuel Macron ? Est-ce qu'il est son collaborateur ? Ou est-ce qu'il a une forme d'autonomie ? Parce que je me suis posé la question, évidemment le Premier ministre, le chef du gouvernement est obligé, est l'obligé du président de la République dès lors que le président de la République a une majorité. Par définition, c'est le président qui préside, Mais plus que ça, c'est le président qui gouverne en réalité. C'est tout le problème d'ailleurs de la Ve République et du système présidentialisé. Mais Michel Barnier, qui a été nommé Premier ministre à l'issue d'une galère qu'on a tous suivie en direct à l'Élysée où le président de la République ne trouvait pas de Premier ministre, peut-être que Michel Barnier, en réalité, il a les coudées plus franches que ce qu'on pense. Je serais curieux de savoir si Michel Barnier s'autorisera à être frontalement en désaccord avec le président de la République sur certains points. L'air de dire, si t'es pas content, mon coco, tu veux nommer qui Premier ministre? Je te rappelle que t'y arrives pas. Je te rappelle que je suis le seul que t'as réussi à nommer. Donc peut-être que Michel Barnier va se révéler. Peut-être que Michel Barnier va se révéler au sens d'une autonomie politique vis-à-vis du président de la République. Est-ce que Laurent Wauquiez a démissionné de son poste de président de région pour se préparer à un éventuel poste de ministre? Non, parce que tu n'as pas besoin de démissionner de ton poste de président de région pour être ministre. Ce n'est pas un mandat, c'est une fonction. On se souvient de... président de la région Bretagne, qui était ministre des Affaires étrangères. On se souvient aussi de Gérald Darmanin. Le Drian, merci, Le Drian. Effectivement, Le Drian. On se souvient de Gérald Darmanin qui était maire de sa commune, Tourcoing, tout en étant ministre de l'Intérieur. Après, par contre, le cumul des mandats est interdit avec le mandat de député, de parlementaire. Donc Wauquiez, à mon avis, il a démissionné de son poste de président de la région Auvergne-Rhône-Alpes uniquement pour cette raison-là. Ouais, il a démissionné en retard, ouais. Ouais, bah il a démissionné, voilà. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, tu peux pas être député et président de région. Christophe Béchu aussi, ouais, Béchu, il était maire de... maire d'Angers. Maire d'Angers, Christophe Béchu. Ouais. T'as un avis sur le cumul des mandats? Ah, moi je suis contre le cumul des mandats, j'ai fait campagne contre le cumul des mandats à l'époque en 2012. Bayrou, il était ministre de la Justice et maire de Pau. Ouais, c'est vrai ça. Ouais, c'est vrai, il était toujours maire de Pau. Très jolie ville, Pau. Est-ce qu'on a des bruits de couloir sur la composition du gouvernement? Non. On n'a pas de bruits de couloir. Je t'ai dit, le seul que j'ai vu passer, c'est que Wauquiez voulait être ministre de l'Intérieur. Et Rachida Dati est toujours maire du 7e. Et Rachida Dati est toujours maire du 7e arrondissement de Paris, tout en étant ministre de la Culture. Tiens d'ailleurs, est-ce que Rachida Dati va rester à la Culture? C'est une bonne question, ça. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ouvertement pour le cumul des mandats? Oui, il y a des gens qui sont ouvertement pour le cumul des mandats. Tu les trouveras notamment dans les partis politiques qui ont un ancrage local fort, comme le Parti socialiste et les Républicains, où il y a des gens qui pensent que c'est mieux d'avoir des députés maires plutôt que d'avoir des députés qui ne représentent pas un ancrage local. Je me souviens même d'un député qui avait déposé une proposition de loi pour obliger le cumul des mandats. C'était un député qui s'appelait Patrick Balkany, qui était un fervent défenseur du cumul des mandats. Il a été député maire de Levallois pendant très longtemps. Et Patrick Balkany avait déposé une proposition de loi en disant on ne peut être candidat à la députation que si on est élu local. On ferme les candidatures et on dit pour être député, il faut être maire. C'est obligatoire. Voilà. Sa proposition de loi n'a jamais été inscrite à l'ordre du jour, elle n'a jamais été débattue ni votée. Mais c'était sur l'argument de l'ancrage local. Est-ce que les députés macronistes pourraient se diviser sur le soutien à Barnier après son discours de politique générale? Alors, à mon avis, les députés macronistes vont être disciplinés au moment du vote sur la motion de censure. C'est-à-dire, je n'imagine pas de députés macronistes voter la censure de Michel Barnier. En revanche, là où il y aura peut-être de l'indiscipline, ce sera sur le vote sur les textes. Peut-être que Michel Barnier aura du mal à récolter toutes les voix macronistes dès lors qu'il s'agira de faire voter des textes qui porteront la marque puissante de l'extrême droite, comme par exemple une nouvelle loi immigration, qui pourrait être en préparation, nous dit-on. On verra. Tu peux nous rappeler comment est divisé le bloc macroniste, genre Horizon, le MoDem, etc. Bah, les députés Ensemble pour la République, ce sont les députés jusque-là Renaissance, qui avant s'appelaient La République en Marche, ce sont les députés macronistes. Ils sont une centaine, un peu moins, 200. Et ensuite, vous avez deux petits groupes, le groupe Horizon, qui sont les députés proches d'Édouard Philippe, et le groupe MoDem, qui sont les députés proches de François Bayrou. François Bayrou, qu'on pourrait peut-être voir au gouvernement. Est-ce que c'est vrai que les macronistes de gauche ont un groupe Telegram qui se nomme les progressistes, ça râle contre Barnier? Oui, absolument. Absolument. Il y a un petit groupe WhatsApp, il y a un groupe Telegram qui a été créé par des députés pas hyper chauds pour le gouvernement Barnier au sein des macronistes. Y a-t-il une micro-chance que ça bouge sur les retraites? Non, parce que le Rassemblement national n'a jamais été très clair sur sa position sur la réforme des retraites. En fonction de quand est-ce que tu écoutes Marine Le Pen parler, des fois elle est pour, des fois elle est contre. Donc, ils étaient chauds pourquoi comme gouvernement ces progressistes? Bah, l'aile gauche de la Macronie, ils étaient plutôt favorables à un Bernard Cazeneuve. Ils auraient été plus à l'aise avec un Bernard Cazeneuve, Premier ministre, sous la coupe du NFP, plutôt qu'avec un Michel Barnier, Premier ministre, sous la coupe du RN. Ils ont annoncé vouloir abroger la réforme des retraites lors de leur niche, le RN. Ah! Donc ils ont encore changé de point de vue. Eh bien très bien. On verra. Est-ce que la gauche va voter l'abrogation de la réforme des retraites proposée par le RN? On verra. Ça dépend du texte. Bah à mon avis, c'est ça va dépendre du texte. Parce que l'abrogation, enfin, je vous rappelle que pour abroger un texte de loi, il ne faut pas juste écrire la loi machin est abrogée. Ça n'existe pas. Il faut présenter une contre-réforme, un contre-système, avec son financement, avec ses règles, etc. Donc on verra ce que propose le RN. Ça dépendra aussi du vote du RN sur la censure. Ah bah les députés RN vont s'abstenir de voter la censure. A priori, c'est ce qu'a dit Marine Le Pen, hein. Jordan Bardella est allé aux 20h de TF1 fanfaronner en disant en gros, on tient Barnier par les couilles. Il l'a pas dit comme ça, mais c'est l'idée. Donc Est-ce que toute la Macronie est OK avec Barnier? Bah écoute, on en parlait tout à l'heure. Il y a quelques députés macronistes qui ont fait savoir leurs réserves sur ce gouvernement Barnier. Enfin, le gouvernement, on ne le connaît pas encore, ce sera la semaine prochaine, mais sur le nom de Michel Barnier. C'est toujours pareil avec la gauche de la Macronie, hein. C'est-à-dire que les mecs, ils existent un peu médiatiquement, mais fondamentalement, à partir du moment où il faut commencer à voter des trucs, ils sont jamais là. Donc on va voir s'il y a une fronde, s'il y a une rébellion, s'il y a un réveil de la part de députés macronistes qui disent Barnier, c'est non. Tu penses qu'il va être censuré, Barnier? Ah non, 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 Barnier ne va pas être censuré. Les seuls qui vont voter la censure, c'est le NFP. Et le NFP, c'est 200 députés. C'est pas assez. Peut-être 210, si on gratte un peu du côté de Lyotte, etc. Ensemble suivra Attal ou Macron? Ah, ça, tu poses une question intéressante. Ça, tu poses une question intéressante, c'est le devenir de ces députés macronistes. Vu qu'Emmanuel Macron ne peut pas se représenter en 2027, qu'est-ce qu'ils vont faire les députés? Peut-on imaginer revoir Macron président en laissant passer un mandat présidentiel? Absolument. Oui. Emmanuel Macron pourra tout à fait être candidat à la présidentielle de 2032. Rien ne l'en empêche. Mais bon, vous avez remarqué qu'il y a quand même des gens qui sont sur les rangs pour commencer à construire l'après-Macron. Édouard Philippe, le premier, qui a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle de 2027. Gabriel Attal, qui lui aussi, apparemment, les relations entre Gabriel Attal et Emmanuel Macron sont glaciales. Et lui aussi, nourrit des ambitions, comme on dit. Est-ce que ça s'est déjà vu un président qui se représente après 5 ans de pause? Oui, ça s'est vu avec Nicolas Sarkozy, qui a tenté de revenir mais n'a pas réussi. Nicolas Sarkozy souhaitait être candidat en 2017. Il a repris le parti Les Républicains en main, mais ça n'a pas fonctionné. Et il s'est cassé la figure sur la primaire qui a vu la victoire de présidente de la région Île-de-France. Non, Fillon, vous avez raison, Fillon. Mais Pécresse, c'était 5 ans plus tard. Fillon, François Fillon. Si jamais il est destitué, est-ce que ça lui donne le droit de se représenter pour un mandat complet? Pas immédiatement, il doit laisser passer un mandat. Après, Sarkozy n'avait pas fait 2 mandats. Oui, tu as raison. Oui, non, tu as raison. Alors, je vous rappelle que la règle qui interdit de faire plus de 2 mandats successifs, c'est nouveau, hein, dans la Constitution, ça date de 2008. Avant, ça n'existait pas. Je me souviens que les Chiraciens, en 2006, disaient que peut-être Jacques Chirac pourrait être amené à se présenter contre Sarko. Bon, finalement, non. Alors, ils avaient essayé de propulser Dominique de Villepin. Dominique de Villepin, c'était le poulain de la Chiraquie contre Sarko. De Villepin est nommé en 2005 Premier ministre, et De Villepin essaye de marquer l'esprit des Français en montrant son énergie et en déposant un projet de loi sur le travail, sur le travail des jeunes, qui s'appelait le CPE. Et pour bien montrer à tout le monde qu'il est prêt à agir fortement, etc., et que c'est un mec plein d'entrain, il annonce que la loi sera adoptée par 49-3 dès le début. Même pas on discute, etc. Il avait une majorité, hein. Il avait une majorité. Mais il a dit let's go 49-3. Bon, la suite de l'histoire, c'est les plus grandes manifestations étudiantes qu'on ait jamais connues. Et le destin présidentiel de Dominique de Villepin est parti, en même temps que sa loi sur le CPE. C'était quoi sa loi ? C'était le CPE, c'était le contrat première embauche. C'était un contrat de travail qui était réservé aux étudiants, aux jeunes, avant l'âge de 25 ans. C'est un contrat de travail, c'était un CDI. Mais la période d'essai de ce CDI était de 2 ans. 2 ans de période d'essai. Voilà. Les jeunes, ils ont dit non. Merci, mais non. Est-ce qu'on a une idée de la politique que va mener le nouveau Premier ministre? Ça commence à se dessiner, oui, ce sera une politique de droite, avec une politique de l'offre très, très forte, une rigueur budgétaire a priori parce que les dérapages budgétaires sont complexes et sont assez criants, notamment cette année. Donc là, le premier budget, à mon avis, va être très serré. Une politique de fermeté en matière de sécurité, d'immigration. C'est quoi une politique de l'offre ? Une politique de l'offre, c'est une politique qui est favorable, enfin qui essaie de favoriser la création de biens et de services. Donc c'est une politique qui favorise les acteurs économiques, les entreprises en l'occurrence. Politique de l'offre, c'est tu fais baisser le coût du travail par exemple, pour booster l'emploi, favoriser l'activité, politique d'investissement également. Et une politique de la demande, c'est une politique où tu augmentes les salaires par exemple, pour booster la consommation. Voilà, c'est un peu caricatural, mais c'est les deux grandes méthodes de la relance économique. On voit tout à fait la rupture avec la politique menée depuis 7 ans. Ah, mais personne n'a promis de rupture. Hein. Si, Barnier, il a parlé de rupture. Ah non, non. Ah non, il n'a pas parlé de rupture. Hein. Il a dit rupture? Je vois pas quand. Pour certains conservateurs, Macron est de gauche. Ah, pour beaucoup de conservateurs, Macron est de gauche, oui. Il y a plus de gens qui considèrent que Macron est de gauche que de gens qui considèrent que Macron est de droite, hein. Si tu regardes le résultat des élections. On peut se présenter des mesures trop à droite vu l'Assemblée, rien ne passera. Il ne peut pas présenter des mesures trop de droite vu l'Assemblée, rien ne passera. Bah si. Est-ce qu'il a besoin d'esquiver les motions de censure du Rassemblement National? Faut être sacrément hors sol pour penser que Macron est de gauche. Non, faut juste être de droite. Ou d'extrême droite. Bruno Le Maire, la France ne doit pas revenir en arrière sur le rétablissement des comptes publics. C'est ça la post-réalité. Quoi ? La France ne doit pas revenir en arrière sur le rétablissement des comptes publics. Mais non, mais c'est normal. Enfin, c'est normal qu'il dise ça. Bruno Le Maire. Il y en a bien un qui trouve Marine Le Pen trop à gauche. Ah bah Éric Zemmour, oui. Ah, il l'a dit, ouais. Macron ne mène pas une politique de droite pour toi? Bah si, pour moi. Mais je suis pas le centre du monde, tu vois, il y a des gens qui pensent pas comme moi. Sauf qu'il y a eu un rétablissement des comptes publics ces dernières années. Ça dépend des années. Ça dépend des années, mais si. Après 2017, la France s'est sortie de la procédure de déficit excessif qui avait été engagée à Bruxelles. Et on est retombé sous des déficits à 3,5-4%, pas plus. On essaie d'être objectif. C'est quoi concrètement les arguments pour dire que Macron serait de gauche? Mais il n'y a rien d'objectif dans le positionnement droite et gauche. C'est subjectif le positionnement droite et gauche. C'est complètement subjectif et contextuel. N'entend plus Dupond-Moretti. Ouais, c'est vrai qu'on n'entend plus Dupond-Moretti. Je suis pas sûr qu'il reste ministre de. Je suis pas sûr que Dupond-Moretti reste ministre de la Justice dans un gouvernement qui est sous la coupe du Rassemblement National. Hein, parce que le Rassemblement National déteste Éric Dupond-Moretti. Donc, qui le lui rend bien d'ailleurs? Non, tiens, d'ailleurs, sur le budget, j'ai vu un truc rigolo. C'est le rapporteur général du budget, c'est. Putain, la vache, aujourd'hui j'ai du mal avec les noms. Hein. Celui qui avait déposé la motion de censure sur la réforme des retraites, qui vient du groupe Liotte, Charles de Courson. Voilà, putain. Charles de Courson, c'est le rapporteur général du budget, et le président de la commission des finances, c'est Éric Coquerel, qui est un député LFI. Et j'ai vu qu'ils avaient l'intention de se rendre lundi au ministère de l'économie et des finances, physiquement, à pied. Enfin, ils vont y aller, physiquement, pour réclamer les lettres de cadrage que le gouvernement refuse de donner au Parlement. Parce qu'on est déjà en retard, effectivement, ils ont raison, on est en retard sur la mouture du budget. Et les lettres de cadrage, c'est les documents assez importants qui sont envoyés par Bercy à tous les ministères en leur donnant les crédits dont ils vont disposer l'année prochaine. Dans le cadre du travail de la préparation du budget 2025, les ministères se préparent et donc ils ont tous reçu des lettres de cadrage. Et ces documents sont réclamés par le Parlement. Et le Parlement a l'intention de se rebeller avec Charles de Courson et Éric Coquerel qui vont aller se présenter directement à Bercy pour réclamer des courriers. C'est pas les seuls qui ont fait ça. Je me souviens de Valérie Rabault, qui était rapporteuse générale du budget sous Hollande. Et elle aussi, elle était allée physiquement à Bercy réclamer des documents budgétaires que les ministères refusaient de transmettre au Parlement. Coquerel s'est exprimé sur Ruffin sur Inter ce matin. Ouais, j'ai vu que François Ruffin avait décidé de faire une rentrée tonitruante dans les médias à l'occasion de la proposition de la sortie de son nouveau bouquin. François Ruffin qui tape très très fort sur son ancienne famille politique, la France Insoumise, hein, qu'il a quittée seulement depuis quelques mois, puisque la rupture a été consommée après les élections législatives de juin dernier. Et François Ruffin qui tape très fort et qui accuse la France Insoumise de faire de la politique au faciès. Alors c'est intéressant parce que cette sortie de François Ruffin intervient 24 heures après la fameuse 48 heures plutôt la vidéo là de Jean-Luc Mélenchon dans les manifs de samedi dernier contre contre la nomination de Barnier à Matignon. Il y a une vidéo qui circule où on voit Mélenchon qui est dans la foule, qui marche et qui discute avec je sais pas qui, et qui parle de la stratégie qu'il faut adopter, et qui dit il faut foutre le paquet, en gros il dit il faut foutre le paquet dans les quartiers populaires et auprès des jeunes dans les banlieues, auprès des abstentionnistes de banlieue, le reste on perd notre temps, c'est là que doit être notre stratégie, etc. Et j'ai vu plein de gens, plein d'opposants à Jean-Luc Mélenchon sortir cette vidéo en disant haha, haha, voilà, les masques tombent. Jean-Luc Mélenchon, pensant qu'il n'y a pas de micro, révèle la véritable nature de son projet. Et oui, moi je me suis dit, oui, enfin, vous savez, il suffit de l'écouter, Jean-Luc. Hein. Mais ça fait quand même quelques années qu'il parle dans des micros, ce monsieur. Il a toujours dit ça. Et, alors, non, il n'a pas toujours dit ça, pardon. C'est la stratégie de la France Insoumise depuis 2022. C'est la stratégie de la France Insoumise, mais c'est la stratégie assumée de la France Insoumise. De dire on met le paquet sur les quartiers populaires, les jeunes issus de l'immigration et les abstentionnistes. Et c'est d'ailleurs ce que reprochait François Ruffin à Jean-Luc Mélenchon, de dire bah oui, mais du coup on oublie complètement l'électorat des régions désindustrialisées en fait. Des ouvriers en fait, l'électorat ouvrier, notamment là d'où vient François Ruffin, la ville d'Amiens, qui est très représentatif de cet électorat-là, quoi. Non, avant 2017, la France insoumise, c'était autre chose. C'était la grande période populiste, revendiquée comme telle, et donc c'était la création d'un peuple. Il y a un peuple, il y a une élite, nous sommes le peuple, il faut lutter contre l'élite. Ça a été le discours pendant plusieurs années, et c'est en 2022 que ça a évolué. Donc, c'était le trip souverainiste de gauche. Ouais. Complètement. C'était ça, 2017. Donc, 2022, c'est effectivement une stratégie différente pour la France insoumise, mais peu importe. Tout ce que je dis, moi, c'est qu'en fait, cette stratégie, elle est publique. Genre, vraiment, en fait. C'est pas. Mais du coup, ça m'a fait marrer, vraiment. J'ai vu des macronistes tweeter des trucs du genre Oh là là, Jean-Luc Mélenchon se révèle. Bah. Oui, enfin, il a toujours dit ça. Enfin, ça fait plusieurs années qu'il dit ça dans plusieurs micros, dans des bouquins, dans des conférences, dans des colloques. Donc ouais, non, c'est pas nouveau. Du coup, faites mieux, ça s'adressait à qui? Bah, à lui-même. En fait, les deux gauches que représentent Ruffin et Mélenchon devraient se compléter, les villes et la ruralité. Oui, non mais bien sûr, enfin, c'est l'intérêt d'avoir un parti large, un parti politique qui brasse large, avec des personnes différentes, qui ont des conceptions différentes. Mais c'est pas le cas de la France insoumise. Donc ouais, non, ça a été la polémique sur la sortie de Jean-Luc Mélenchon et derrière, effectivement, sur cette sortie de François Ruffin. François Ruffin qui tape très très fort, hein, je veux dire, il décrit un Jean-Luc Mélenchon particulièrement violent dans ses propos contre la population d'Amiens, les Amiénoises et les Amiénois. Je sais pas si François Ruffin va vraiment gagner des points avec cette stratégie-là. Mélenchon va se représenter en 2027 où il va enfin laisser sa place. Ah non, Jean-Luc Mélenchon, il est parti pour se représenter en 2027. Hein. Il y a combien de places à l'Agora de l'humanité? C'est illimité. Peut-être sur l'électorat socialiste. L'électorat socialiste, il a déjà le Parti socialiste, hein. Il n'y a pas besoin de François Ruffin. Gagner des points à droite sur des gens qui voteront jamais pour lui, c'est pas ma gauche. Enfin bon, après, c'est chacun sa stratégie, mais. Vous ne gagnez jamais les élections en ne vous adressant qu'aux vôtres. C'est le principe de l'élargissement. Il faut essayer d'ouvrir les bras et d'aller chercher les indécis. D'une manière générale, d'aller chercher un électorat. Alors, Jean-Luc Mélenchon va chercher un électorat abstentionniste dans les quartiers populaires. C'est sa stratégie. Et il y en a d'autres qui vont chercher un électorat auprès des mecs d'à côté. Je sais plus qui avait dit si la gauche veut gagner, si la gauche veut gagner, il faut absolument qu'elle réussisse à séduire une partie de l'électorat qui a voté Macron en 2017 et en 2022. Mais par conviction, hein, pas des gens qui ont voté au second tour face à Le Pen. Non, non, non. Des gens qui ont voté Macron parce qu'ils y croyaient au projet de Macron. Ces personnes-là peuvent être déçues du macronisme et d'Emmanuel Macron. Et ces gens-là, il va falloir que la gauche réussisse à aller les chercher. Bon, bah ça, c'est une autre stratégie. C'est encore une autre stratégie, d'aller chercher les déçus du macronisme en leur disant « Votez à gauche, vous verrez, machin. » Et pour ça, on va commencer par éviter de les insulter, ces gens-là. Je vous ai déjà dit, dans une élection, il y a trois types d'électorats. Il y a ceux qui voteront toujours pour vous, il y a ceux qui voteront jamais pour vous, et il y a ceux qui sont indécis. Les deux premières catégories, vous pouvez les oublier, ça sert à rien de faire campagne auprès d'eux. Les personnes que vous avez intérêt à aller chercher, c'est les indécis, ceux qui sont peut-être, éventuellement, pourraient être amenés à voter pour vous. Et le meilleur moyen qui vote pour vous, c'est de commencer par pas les insulter, et éventuellement de leur montrer que vous avez des atomes crochus avec eux, et que ça pourrait le faire, et que ça pourrait être intéressant. Donc tu es d'accord avec Mélenchon, hein? Je suis d'accord avec tous les leaders politiques de la scène politique nationale. Marine Le Pen, c'est pareil. Marine Le Pen, c'est exactement la même stratégie. Elle dit, moi si je veux devenir présidente de la République, c'est pas en faisant voter que les gens d'extrême droite. Parce que les fachos dans ce pays, ils sont pas majoritaires. Donc il va falloir que je lisse mon image, il va falloir que j'aille chercher un électorat sarkozyste des années 2010... pour leur dire, venez, regardez, on a changé, on n'est plus infréquentable, vous pouvez voter pour nous, etc. La fameuse droite décomplexée de Nicolas Sarkozy, venez voter pour nous, etc. C'est exactement ce que fait Marine Le Pen. Si en parlant aux indécis, on trahit ses valeurs, on perd sa base. Bah non, parce que la base aussi, elle peut être d'accord. Elle peut être d'accord avec l'idée que l'élargissement est nécessaire. Il vaut mieux remporter une élection avec un compromis plutôt que faire 5% avec les honneurs. C'est une question de point de vue. Hein. Il y a des gens, il y a plein de gens qui ne veulent pas gagner les élections. Hein. Il y en a plein. D'ailleurs, cette question-là dont je suis en train de parler, c'est exactement la discussion qui anime les écologistes. Quand j'étais l'été dernier à l'université d'été des écolos, ils m'avaient invité. Ils avaient des ateliers où ils discutaient justement de ça. Et c'est tout le travail que mène Marine Tondelier au sein du parti politique. Vous savez, elle a fait une grande enquête de satisfaction sur les sympathisants écologistes. Et c'est intéressant parce qu'elle disait, en fait, si vous demandez aux Français aujourd'hui est-ce que vous vous sentez écolo, y a des dizaines de millions de Français qui se disent oui, j'ai une fibre... je me sens écolo, etc. Et elle disait, bah, comment ça se fait que ces gens-là, ils ne sont pas au parti ? Le parti des écologistes. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à les attirer ? Et toute la réflexion du parti doit être de se dire, bah, comment on fait pour ouvrir les bras et essayer d'aller chercher ces gens-là ? En leur disant, bah, il y a un parti, il y a un bulletin de vote qui représente votre sensibilité, etc. Et c'est tout le travail intellectuel que fait le parti actuellement. Je ne sais pas s'ils vont y arriver. D'ailleurs, le fait qu'ils se renomment les écologistes... ça fait partie de ces stratégies-là. Avant, il s'appelait Europe Écologie Les Verts. Personne ne comprend rien, c'est compliqué. En plus, c'est très partisan. Enfin, c'est vraiment Europe Écologie et Les Verts qui ont fusionné pour faire un parti qui s'appelle Europe Écologie Les Verts. Ça pue la tambouille politicienne, ça emmerde tout le monde. Et du coup, elle a décidé de rebrander le parti en disant « Maintenant, on va s'appeler les écologistes. » Tout simplement, on s'appelle les écolos. C'est nous, on est là. Et on essaye d'attirer à nous des gens qui ont une fibre. Parce que l'écologie, c'est pas une politique en particulier. Alors, t'as l'idée selon laquelle l'écologie, c'est un truc sectoriel. Vous savez, il y a l'éducation nationale, il y a la culture, il y a l'armée, il y a machin, et puis il y a l'écologie. L'écologie, c'est un ministère comme ça. C'est un petit ministère, et puis il fait des trucs comme ça dans son coin. Et puis les autres, machin. Ça, c'est justement ce à quoi s'attaque l'écologie politique depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Même plus, hein, ça va faire plus de 20, bientôt 20 ans, dans l'idée de dire que l'écologie n'est pas sectorielle. C'est pas comme la défense de la cause animale. L'écologie est une structuration intellectuelle et politique qui peut porter un projet transversal qui se traduira dans tout un tas de ministères. Et ça, c'est le travail intellectuel qu'ils essayent de mener. Vous voyez que les partis politiques, c'est aussi des machines à réfléchir, qui s'interrogent sur leurs perspectives, sur leur potentiel de gain en termes d'électorat, que tout le monde n'est pas d'accord sur la stratégie. Moi, j'ai des souvenirs de discours de Jean-Luc Mélenchon au Parti socialiste, qui expliquait pourquoi, selon lui, la direction du Parti socialiste faisait fausse route. Pourquoi ils allaient dans la mauvaise direction, pourquoi il valait mieux défendre les classes populaires et les ouvriers, laisser tomber la gauche culturelle de Jack Lang, en gros. Bon, et Jean-Luc Mélenchon, il a jamais été purgé du PS, parce que le PS, c'est un parti démocratique, donc il n'y a pas besoin de faire de purge. Tu peux avoir une opposition interne, hein. Bah, d'ailleurs, actuellement, vous le voyez bien, avec Olivier Faure, qui a plus de 45% de son bureau national contre lui, mais qui est quand même au parti. Est-ce que les partis ne passent pas trop de temps à réfléchir à leur stratégie d'acquisition de nouveaux électeurs? Alors, tu leur demandes à eux, ils te répondront qu'ils en passent, ils passent pas assez de temps. Un parti politique, c'est une machine à faire campagne. Tu sous-entends que LFI n'est pas un parti démocratique? Ah non, non, je le sous-entends pas, je l'affirme. La France insoumise ne pratique pas la démocratie en interne. Les électeurs insoumis ne votent pas pour leurs représentants au sein du parti pour décider de la direction prise par le parti. Mais c'est pas grave, hein, ils n'ont pas obligé, hein. C'est pas les seuls d'ailleurs, le Rassemblement national aussi fonctionne de la même manière. Et les macronistes fonctionnent de la même manière. Pour la même raison d'ailleurs, parce qu'ils ont un leader charismatique fort. Mais du coup, ouais, non, non, si tu demandes aux partis politiques, ils vont te dire en fait on est rincé, on est épuisé. On est rincé et épuisé parce qu'on fait que des campagnes les unes après les autres en fait. On a à peine fini la campagne présidentielle qu'il faut enchaîner sur la campagne législative. 2 ans plus tard, tu as une dissolution surprise, on repart en campagne pendant plusieurs mois, etc. Le travail intellectuel, malheureusement, c'est un travail de temps long et les partis politiques tirent la langue, hein. Je pense que le NFP tiendra jusqu'aux élections 2027. Oui, si Michel Barnier reste Premier ministre, le NFP va tenir parce que le NFP est dans l'opposition. Ce à quoi on va assister, les amis, c'est la renaissance du clivage gauche-droite, hein. Pur et dur. On va avoir un gouvernement de droite, franchement de droite, Michel Barnier, qui s'assume de droite. Et en face, il y aura une opposition NFP, de gauche. Est-ce que les modes de suffrage pourraient changer quelque chose à la mécanique des campagnes actuelles? Oui, bah par définition, le mode de suffrage, le mode de scrutin implique des comportements d'acteurs différents. Donc bien sûr, ça change tout. Si tu fais une proportionnelle, t'as pas besoin de NFP. La proportionnelle, c'est la fin du NFP. C'est terminé, il n'y a plus besoin de faire de NFP. Chaque parti présente sa liste et après on discute une fois qu'on s'est compté. Plus la gauche fait sa politique et plus la droite gagne des électeurs dans toute l'Europe. Ouais. Et à quel endroit en Europe tu la vois la gauche faire sa politique, comme tu dis? En Allemagne? Pas ouf, hein. En Espagne, ouais. Au Venezuela. Mais c'est particulier. C'est pas plus mal, la proportionnelle, ça évite les négociations à la petite semaine. Alors au contraire, la proportionnelle, ça génère des discussions à la petite semaine après les élections. C'est la différence entre un scrutin majoritaire et un scrutin proportionnel, c'est qu'un scrutin majoritaire, vous avez des négociations entre les partis qui ont lieu avant les élections pour faire des coalitions électorales et maximiser leurs chances d'avoir des députés. Si vous avez un scrutin proportionnel, vous n'avez pas de discussion entre les partis avant l'élection, ça ne sert à rien, il y a des discussions après. Une fois que l'élection est finie, on se réunit, on discute et on gouverne ensemble éventuellement. Exactement ce qui s'est passé en Allemagne. Le SPD est arrivé en tête, il est allé voir ses alliés, il est allé voir les écolos, il est allé voir les libéraux. Il leur a dit, bon, on discute, on se met d'accord sur un programme, ça prend du temps la négociation, hein. Et ensuite on gouverne et on applique. S'il y a une proportionnelle, il n'est plus question de représentation locale. Ça dépend comment tu fais ta proportionnelle. Si tu fais ta proportionnelle par département, par exemple, tu peux favoriser quand même une représentation locale. Le SPD aurait pu voir la gauche, mais il a préféré les macronistes. Non, il n'a pas eu le choix. Désolé de te l'annoncer, mais Die Linke ne pèse pas suffisamment pour faire un gouvernement. Non, le SPD n'a pas eu le choix, il a été obligé d'aller voir les macronistes, comme tu dis, les libéraux. La plupart du pays, c'est un mix uninominal et proportionnel. Ouais, t'as raison. Dans la plupart des pays, en fait, vous votez pour deux trucs. Vous votez pour un candidat dans votre circonscription et pour un parti politique au niveau national. Et la composition de la Chambre se fait, alors ça dépend des clés de répartition, mais en partie à la représentation majoritaire et en partie à la représentation proportionnelle. On fait une proportionnelle par circonscription sinon. Ben non, ça ne sert à rien, parce que par circonscription, il n'y a qu'un seul député. On va pas faire une proportionnelle pour un seul poste. On fait une proportionnelle quand il y a plusieurs postes à pourvoir. Étant donné que la gauche est majoritaire presque uniquement dans les grandes villes, plus une représentation proportionnelle serait importante, moins ça leur serait favorable. Bah non, ça dépend comment tu pondères l'élection. Si tu fais des circonscriptions plus petites dans les villes parce qu'il y a plus de population et plus grandes dans la campagne parce qu'il y a moins de population. Au bout du bout, un député représente toujours à peu près le même nombre d'électeurs. Ce qui n'est pas vrai. Parce que, y a des départements où il y en a moins, mais. C'est pour ça qu'il y a plusieurs circonscriptions dans les villes aujourd'hui. Ça va nous faire du gerrymandering à la française, on va avoir des gros problèmes. Ben non, mais c'est pour ça que ça sert à rien de se casser le caillou, il suffit simplement de faire des circonscriptions départementales. On a des départements, on connaît leur population, et on élit un nombre de députés par département. En fonction de la taille du département, on élit plus ou moins de députés, voilà. Dans le département de Paris, il y a beaucoup de population, on élit je sais pas, une quinzaine de députés. Et dans le département de la Creuse, il y a moins d'électeurs, on élit un député. Du coup, on fait un scrutin majoritaire dans ce département-là, parce que ça sert à rien de faire une proportionnelle à un seul député. Actuellement, à Paris, on en élit 18. Ouais, j'étais en train de chercher dans ma tête combien il y avait de députés à Paris. Le chiffre, le nombre, c'est 18, t'as raison. C'est pour ça que j'ai dit une quinzaine. Donc la France va tourner autour de Paris. Mais non. Pourquoi tu dis ça? Le système qu'on a actuellement, c'est le même, hein? C'est pas républicain. Mais qu'est-ce que vous comprenez pas dans le fait de... Un député représente 200 000 habitants, à peu près. 250 000. Si dans un département entier, vous avez 250 000 habitants, on élit un seul député. Il arrive à l'Assemblée. Bonjour, chers collègues, je représente 250 000 habitants. Dans une ville où il y a 2 millions d'habitants, on en élit plus des députés. Et les députés représentent toujours 250 000 habitants. Donc ils arrivent à l'Assemblée en disant « Bonjour chers collègues, moi aussi je représente 250 000 habitants. » C'est égalitaire. Comme les sénateurs, certains sont en liste, d'autres uninominales. Absolument. Les élections sénatoriales sont... Parfois au scrutin proportionnel et parfois au scrutin uninominal selon les départements. Absolument. Égalitaire, mais sur le plan démographique seulement. Bah oui. Enfin, je veux dire, c'est un mode de scrutin, quoi. Pourquoi pas de proportionnel intégral? Alors la proportionnelle intégrale nationale, tu as un risque, c'est d'avoir une assemblée qui est composée de 577 députés, mais aucun ne vient de certains territoires. Genre il y a certains territoires qui ne seraient pas représentés à l'assemblée. Et je peux comprendre que ça énerve. Genre la Corse, genre l'Outre-mer. Je suis désolé s'il n'y a aucun Martiniquais, c'est chiant en fait, c'est... Et puis tu peux même te retrouver avec une assemblée quasiment intégralement parisienne. C'est possible, tu peux avoir, c'est possible. Si les partis mettent que des apparatchiks sortis de l'ENA, petit intellectuel, etc. Ouais. Tu dirais quoi aux gens qui disent que si on a Barnier, c'est parce que le PS a refusé Cazeneuve? Bah qu'ils ont raison. Si le PS avait accepté Cazeneuve, il y aurait Cazeneuve. Non, par contre, il y a un truc qui m'énerve. Il y a un truc qui m'énerve. C'est quand Emmanuel Macron dit... Je peux pas nommer Lucie Castet parce que sinon elle serait censurée. Quand Emmanuel Macron dit ça, il se présente comme le président au-dessus des partis très gaulliens, machin, etc. Il fait mine de constater un état de fait qui arriverait si d'aventure Lucie Castet avait été nommée à Matignon. La vérité, c'est que Lucie Castet, elle a été censurée. Elle l'a été. Dès lors que sa censure dépend de l'acceptation ou non d'Emmanuel Macron, lui-même, puisqu'il est à la tête d'un groupe de 100 députés, 130 si on rajoute les autres, ça veut dire qu'Emmanuel Macron a refusé la nomination de Lucie Castet. Il l'a censurée, avec le RN. Donc faut pas nous présenter ça comme ah bah vous savez, il y a peu de chances qu'elle y arrive hein, et tout. Mais en fait, c'est toi qu'elle doit convaincre. C'est lui qui a la main sur les députés macronistes. Donc, Emmanuel Macron a refusé Lucie Castet. Il l'a de facto censurée. Il a annoncé que si d'aventure il la nommait Premier ministre, alors il demanderait à ses députés de la censurer. C'est ça qu'il a fait. Je trouve ça un peu trop pratique parfois de genre se mettre au-dessus de la mêlée et tout. Non, non, t'es pas au-dessus de la mêlée, mec, hein. T'es à la tête d'un groupe d'une centaine de députés, hein. Les majorités se font et se défont en fonction de ton bon vouloir. En partie. Pas seulement, mais en partie. C'est pour ça aussi que c'était pas très habile de la part de la France insoumise d'insister sur la notion de cohabitation avec Emmanuel Macron et de présenter la destitution directement alors que les discussions étaient encore en cours. Tu ne peux pas forcer une cohabitation brutale avec un président dont tu as besoin des 100 députés et quelques pour gouverner. Ça aussi, ça a un peu plombé Lucie Castet. Mais bon. C'est pas fini! C'est pas fini, c'est pas la fin de l'histoire! Parce que c'est pas une cohabitation. Non, ça peut pas être une cohabitation. Une cohabitation. Dans le cas d'une cohabitation, le président de la République a perdu. Au sens de, il n'a plus les moyens de faire quoi que ce soit. Il est dans l'opposition. François Mitterrand, en 1986, il a une minorité de députés. Il peut pas bloquer Chirac. Il ne peut pas. Quand bien même il le veut, quand bien même il en meurt d'envie, quand bien même il a envie de l'étrangler, là, Chirac, il ne peut pas le faire. Parce que Jacques Chirac a une majorité absolue de députés. Et que donc il est Premier ministre. Et que donc c'est lui qui a le pouvoir en France et qui peut patiemment détricoter le programme de François Mitterrand. Exactement pareil dans l'autre sens avec Lionel Jospin en 97. Lionel Jospin a une majorité absolue de gauche plurielle à l'Assemblée nationale. Jacques Chirac n'a qu'une petite minorité. Il ne peut pas s'opposer. Là, dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, Emmanuel Macron n'est pas totalement éliminé. C'est pas vrai. Parce que le système des trois blocs fait qu'il a un bloc central dont tu as besoin si tu veux gouverner. Tu as besoin de leur aval. A minima, tu as besoin de leur non-censure. A minima. Donc Emmanuel Macron a encore la possibilité de participer à la discussion. C'est pour ça que j'appelle ça une colocation, et non pas une cohabitation. Dans ce cas-là, en tant que bloc central, tu perds jamais. Exactement. Ça, c'est toute la puissance du bloc central. Tu participes presque toujours. Est-ce qu'il faut s'attendre à une chute du nombre de votants prochainement quand les gens voient que c'est la gauche qui gagne, mais que c'est un Premier ministre de droite? Malheureusement, y a des gens qui, depuis 2 mois, disent que la gauche a remporté les élections législatives de juin 2024. Ces gens-là vous mentent. Ce n'est pas vrai. Je suis désolé de vous l'apprendre. Pardon, je ruine l'ambiance, je sais, j'en ai conscience. La gauche n'a pas gagné, la gauche a 200 députés dans une assemblée qui en compte 577. J'appelle pas ça une victoire. J'appelle ça avoir le droit de participer à la table des négociations. C'est pas la même chose. Qui a gagné? Il n'y a pas toujours de vainqueur clair à une élection. C'est bizarre ce que je suis en train de dire parce qu'on a tous l'habitude d'élire un président de la République où là, bon, c'est facile, il y a toujours un vainqueur. Celui qui a le plus de bulletins au second tour, il a gagné. Il y a un gagnant, un perdant, c'est bête et méchant, c'est noir et blanc, etc. Quand on élit une chambre, une assemblée, un conseil municipal, un sénat, parfois, il y a des résultats d'élection où il n'y a pas de gagnant clair. La plupart du temps, il faut bien l'avouer, il y a un gagnant clair. Ça fait 70 ans qu'à chaque élection législative, on a un gagnant clair. L'UMP en 2007, elle est gagnante. Le Parti socialiste en 2012, il est gagnant. La gauche plurielle en 97, elle est gagnante. Voilà, à chaque fois, il n'y a pas de discussion à avoir. C'est clair, c'est sûr, c'est officiel, c'est machin. Sauf que nous, les Français, on est tellement matrixés par cette 5ème République de merde qu'on en oublie que parfois, il y a des situations où une assemblée, bah, c'est pas clair. Il y a des conseils municipaux où c'est pas très clair. Et bah là, on a une assemblée nationale où c'est pas clair. Donc, désolé de vous le redire encore une fois, la gauche n'a pas gagné les élections législatives de juin 2024. C'est plus compliqué que ça. C'est plus subtil. C'est discutable. La gauche est arrivée première, mais elle n'a pas gagné. Ouais. Absolument. Mais ça, on s'en fout d'ailleurs. Ça, tu peux arriver en première, en deuxième position, en troisième position, en ayant gagné ou pas. À partir de combien de grains de sable y a-t-il un tas? Une jolie question. C'est une jolie question. Gagner, c'est 289 députés, pas moins. Ça dépend. Ça dépend parce que... alors oui, ça c'est sûr, 289 députés, c'est une victoire claire. Évidente, machin, oui. En 2020, en 2022, pardon, les macronistes ont obtenu 245 députés. Mais à l'époque, c'était assez clair qu'ils étaient les seuls en position de gouverner, qu'il n'y avait pas de coalition possible pour les renverser d'une manière ou d'une autre. Donc, même à 245 députés, les macronistes ont clairement gagné les élections législatives de 2022. Si la gauche n'a pas gagné, on peut dire que les macronistes a perdu au premier tour et le RN au deuxième. Oui, on peut tirer des conclusions comme ça, mais qui n'excluent pas nécessairement de la participation au pouvoir. C'est ça en fait le truc qu'il faut comprendre. C'est que gagner et perdre, c'est pas très intéressant. On s'en fout un peu. La question c'est est-ce que vous êtes en mesure de participer au pouvoir? Donc les macronistes n'ont pas gagné, mais ils sont carrément en mesure de participer au pouvoir. Le RN n'a pas gagné, mais il a la possibilité de participer indirectement au pouvoir en affichant sa préférence pour un Premier ministre plutôt que pour un autre. Une vision très bourgeoise de la politique, tu la vois vraiment comme un jeu d'esprit qui n'a pas vraiment d'importance. Tu suis une série télévisée alors qu'on parle de la survie d'hommes et de femmes. Eh ben vas-y, montre-moi la voie. Pensez-vous que Barnier va proposer beaucoup de LR sur les ministères? Bah oui, je pense. Oui, je pense que les Républicains, ils font partie, là, clairement, de la direction du truc. Les positions, ça pose le rapport de force, mais après, il faut des alliances possibles pour gouverner. Exactement. En fait, là, on peut reprendre le truc de du rugby, la notion de transformer l'essai, en fait. Une victoire, ça se transforme. Est-ce qu'il y a une chance, d'après toi, qu'il y ait des députés NFP dans le gouvernement? Non. Non. Le NFP est opposant à Michel Barnier. Parce qu'ils iraient foutre dans la participation à un gouvernement qui est placé sous la coupe bienveillante de Marine Le Pen. Est-ce qu'au second tour législatif, je trouve ça personnellement que ça fausse la représentation nationale? C'est-à-dire? Mmh. C'est quand même très problématique que ce soit le parti à 6%, 8% des sièges de l'Assemblée nationale qui gouverne avec la bénédiction d'un parti qui a été majoritairement rejeté au second tour. Ouais, et pourtant c'est comme ça que ça se passe dans toutes les démocraties parlementaires d'Europe. Les libéraux en Allemagne, ils n'ont pas fait un score énorme, hein. Bah ouais, mais ils sont au gouvernement. Les écolos, pareil. Macron qui choisit qui est le gagnant, il a choisi le RN au lieu de la gauche, c'est tout. Ouais, c'est ce que je dis. Emmanuel Macron a choisi de censurer Lucie Castet. C'est pour ça que Emmanuel Macron n'est pas en dehors du jeu. Il n'a pas perdu les élections, il n'est pas en dehors du jeu parce qu'il a un groupe d'une centaine de députés qui est central et qui peut apporter ses voix ou ses abstentions dans le circuit. Ça veut aussi dire que Emmanuel Macron est comptable du gouvernement Barnier, hein. Que je sens bien l'argumentaire de ah bah c'est pas moi, c'est les Français qui ont voulu et tout. Non, 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 c'est toi. T'as choisi de pas avoir Lucie Castet, t'as choisi Barnier, t'es comptable. Est-ce que certains ministres vont garder leur poste? Je sais pas, moi je te dis, je me posais la question pour Rachida Dati. Est-ce qu'elle va rester à la culture? Est-ce que Barnier va choisir la stabilité dans certains ministères? Je sais pas. Darmanin aussi, il peut rester. Darmanin, il a annoncé qu'il ne souhaitait pas rester. Si j'ai bien compris. C'est un peu problématique ce tel pouvoir pour un homme. Là, le problème, c'est que l'homme en question soit président de la République. Mais techniquement, c'est pas un problème en soi qu'un chef de parti participe à des discussions sur des coalitions. Après, honnêtement, qui voudrait gouverner vu les marges de manœuvre? La dette qui est tabou commence à devenir très problématique pour le prochain gouvernement. Est-ce que c'est regarder le documentaire de l'asso Contribuable Associé? Non, alors Contribuable Associé, c'est pas le genre d'association que je recommande. Très très proche de l'extrême droite, hein. Mais au demeurant, si vous êtes d'extrême droite, ça doit vous plaire, il n'y a pas de problème. Et puis surtout, la question de savoir qui voudrait gouverner vu le contexte, j'ai envie de te dire, on gouverne pas dans un contexte facile, on gouverne jamais dans un contexte facile. Donc, on n'arrive jamais au pouvoir dans les conditions qu'on aurait préférées. L'ambiance serait différente si les parlementaires siégeaient. Tout se passe à côté des institutions en ce moment. Oui, mais ça, de toutes les manières, c'est pas très grave. L'Assemblée va siéger début octobre, hein. Alors, je pense que l'Assemblée gagnerait à siéger un peu avant quand même, ne serait-ce que pour rattraper son retard en matière de débat budgétaire, mais bon. Qu'est-ce que tu penses de la révélation de Ruffin sur le tractage au faciès de LFI? Bah, j'en pense pas grand-chose, c'est pas nouveau le fait qu'il y ait des discussions stratégiques entre Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin sur la stratégie à suivre. Je trouve ça curieux que François Ruffin ait choisi ce ton de passer à l'attaque. Et je vois pas très bien qu'est-ce qu'il a à y gagner. Donc on verra. Est-ce que Barnier risque de faire de nouveaux 49-3, notamment sur le budget? Oui. 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 Sarkozy ministre? Non. Tu trouves ça curieux alors qu'il se fait traiter de nazi par tout LFI? Oui, non mais... La virulence, c'est plutôt un truc qui appartient à LFI d'habitude, effectivement. Mais c'est pour ça aussi que je trouve ça bizarre que François Ruffin ait choisi la virulence pour y répondre. Tu vois, t'as pas grand-chose à gagner à jouer sur le terrain du harcèlement avec les harceleurs. Je sais pas, je trouve ça curieux. Est-ce qu'une fronde macroniste est possible? Ah, on en parlait tout à l'heure. On en parlait tout à l'heure. C'est possible. C'est possible que certains députés macronistes se disent que ça commence à bien faire. Barnier et l'extrême droite, c'est non. On ne veut pas soutenir un gouvernement qui est sous la coupe de Marine Le Pen. Et puis, par ailleurs, c'est aussi la fin d'Emmanuel Macron, hein. Emmanuel Macron est un leader charismatique fort pour son parti, pour ses députés. Tant qu'il a une perspective politique, tout roule. Mais dès lors qu'on se rapproche de 2027 où Emmanuel Macron ne peut pas se représenter, peut-être qu'il y a des députés qui vont se libérer de la tutelle et dire tout haut ce qu'ils pensent. Édouard Philippe a déjà commencé. Bon, pour l'instant, Édouard Philippe, il est dans un soutien à Barnier. Mais... Je sais pas. On verra. Est-ce que c'est la fin du Front républicain? Non, parce que le Front républicain, c'est un phénomène électoral. C'est pas un programme de gouvernement. Est-ce que Attal va redevenir ministre? Je sais pas. Je pense pas, non, bah non, 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 non. Quand t'as été premier ministre, tu deviens pas ministre de ton successeur. Non. Après, Hollande est bien redevenu député. Ouais, mais plusieurs années plus tard, dans un contexte très différent. Et puis, il s'agit pas. Vous savez, quand vous êtes ministre, vous êtes sous la tutelle de Matignon, hein. Vous devez obéir à Matignon, vous devez obtenir des arbitrages favorables de Matignon, et vous devez ronger votre frein si vous n'êtes pas content de ce qu'a dit Matignon. Quand t'as été Premier ministre, te mettre au service d'un autre. C'est chaud en fait. Genre, t'as pas envie de dépendre d'un autre qui te dise quoi dire, quoi faire, qui t'envoie des lettres de cadrage budgétaire que t'as pas validées. Ah, ça me ferait chier, hein. Fabius l'a fait. Ouais, mais des années plus tard. Encore une fois, il y avait de l'eau qui avait coulé sous les ponts. Nouveau paradigme, nouveau fonctionnement, etc. C'est pas tout à fait pareil. Attal, il est chef de son groupe à l'Assemblée en plus. Ouais, en plus. D'ailleurs, apparemment, Emmanuel Macron, il n'est pas très content. Apparemment, Macron est pas très content que Gabriel Attal soit à la fois chef du groupe et chef du parti. Il trouve que, hein, commence à prendre la place, le petit. Est-ce que Zemmour est finito en politique? Ça, c'est une bonne question. Bon, on peut dire qu'on n'est jamais fini en politique d'abord. Éric Zemmour, il a raté. Il a raté son lancement en politique. Je vous rappelle que quand Éric Zemmour s'est lancé à créer son parti Reconquête et a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle, c'était à la fin de l'été 2021, il était crédité dans certains sondages de 20% des voix au premier tour. Genre énorme. Morale de l'histoire, après une campagne laborieuse, où il s'est particulièrement ridiculisé sur les passages en plateau télé, Éric Zemmour a fini à 7%, ce qui n'est pas dégueulasse comme score, mais ce qui est très très loin de casser la baraque, machin. Mais c'est après que ça a été encore pire, c'est qu'il n'a pas réussi à faire élire un seul député Reconquête aux élections législatives de 2022 et en 2024 pas plus. T'y croyais à ces 20%? Mais j'en sais rien, j'ai pas à croire ou à pas croire, hein. Je constate juste qu'à un moment donné, il y a une partie de l'opinion publique qui soutenait Zemmour. Ouais, il s'est rattrapé aux européennes. Attention, il s'est rattrapé aux européennes en faisant élire 4 députés européens. Mais dans la foulée, je vous rappelle que dans la foulée des européennes, sa principale alliée Marion Maréchal Le Pen s'est barrée pour rejoindre le RN. Ce qui est quand même l'humiliation absolue pour Éric Zemmour. Donc sa relative victoire à 20h lui a été piquée à 20h05. Et il s'est réeffondré. Non, c'est pas... Non, Zemmour, c'est un cassage de gueule en bonne et due forme. Hein. C'est vrai que Marion Maréchal était un sacré trophée. Ah bah carrément. D'autant que Marion Maréchal, elle venait pas toute seule. Elle venait avec une bande de jeunes cadres du RN, smart, talentueux, etc. Enfin, il en avait besoin de ouf. Il était très heureux, Éric Zemmour, de pouvoir compter sur cette jeunesse, sur ce savoir-faire, etc. Je vous rappelle qu'Éric Zemmour, à part prendre la parole sur des plateaux télé et écrire des bouquins, il ne sait rien faire. Hein. Oh, je veux dire, créer un parti politique, faut du savoir-faire. Hein. Il en faut du jeune intelligent, etc. Et Marion Maréchal, elle en a tout le tour du ventre, puisqu'elle a créé la première école de formation, là, l'INSEP, l'ICEP, je ne sais plus comment ça s'appelle, à Lyon. Donc, ouais. Non, Éric Zemmour... En parlant de bouquins, ouais, t'as raison, en parlant de bouquins, vous savez qu'il y a un bouquin qui va sortir le 25 septembre, absolument extraordinaire, qui s'appelle « Les jeunes, c'est le présent », écrit par Jean Massier. Aux éditions Payot, un livre formidable à seulement 19€, hein, en dessous des 20 balles. N'hésitez pas à l'acheter et à le lire. D'ailleurs, il est précommandable d'ores et déjà sur le point d'exclamation livre dans le chat. Vous pouvez le précommander. Tu peux nous réexpliquer ce que c'est un livre? C'est un document PDF qui a été imprimé sur des feuilles. Avec un système de collage là, à ce niveau-là, qui permet de tourner les feuilles les unes après les autres, comme ça tu lis la suite du document PDF, page par page. Voilà, c'est ça la techno. Donc n'hésitez pas à vous le procurer. J'ai hâte, et à le lire. Pourquoi t'as écrit un bouquin? Parce que j'avais envie que tu le lises. Ah oui, tiens, d'ailleurs, la version numérique du livre sera disponible le jour de la sortie, le 25. Voilà, si vous préférez les e-books, n'hésitez pas. Trop bizarre de faire un stream au lieu de faire un bouquin. C'est quoi numérique? Numérique, ça veut dire digital. Pardon. Excuse-moi, à chaque fois je passe à côté, je suis désolé. Est-ce que tu vas faire une tournée des médias cathodiques? Ouais, a priori je vais faire une tournée des médias cathodiques, ouais. Est-ce que tu penses que Delogu va réussir à le lire? Putain. Elle va être longue cette année. J'ai hâte que l'Assemblée reprenne. Est-ce que les macronistes pourraient devenir la nouvelle droite en écrasant LR et le virage à droite de la politique Macron? C'est une bonne question que tu poses. Je ne pense pas que les macronistes vont devenir la nouvelle droite. Je pense que les macronistes vont devenir la nouvelle UDF. L'UDF, c'était le parti des Giscardiens. Les Giscardiens, c'était les gens de droite non gaullistes. C'était des centristes, c'était des européistes, des libéraux. Et l'UDF a succédé à Giscard, jusqu'à ce qu'elle fusionne avec le RPR à la fin des années 90 pour donner naissance à l'UMP. Mais donc c'est pour ça qu'à mon avis, les macronistes vont continuer à exister dans le paysage, parce qu'ils représentent une sensibilité politique qui existe. Hein, ce centre-là, cette histoire du centrisme français existe et continuera à exister. Et on verra bien ce qu'il adviendra de leur mouvement politique. Mais il ne faut pas se leurrer. Le macronisme, et c'est pas le seul mouvement politique en France à être dans cette situation-là, dépend énormément de son leader. C'est ce qu'on appelle les partis avec un leader charismatique fort. Emmanuel Macron est un leader charismatique fort. Il est à la tête, et il est la raison pour laquelle le parti existe. Ce qu'il adviendra de lui personnellement, c'est aussi de ça dont dépendra la suite du mouvement. Le néolibéralisme, c'est pas le centre, si. C'est le centre en France, historiquement. Faure était un leader charismatique macroniste. Qui ça? Olivier Faure? Non, Olivier Faure, il est à la tête du Parti Socialiste. Quid du mouvement radical? Bah, tu vois, pour moi, le mouvement radical, il a été bouffé par le macronisme. Déjà qu'il n'existait plus trop, hein, je suis pardon, hein, j'ai beaucoup de respect pour les Valoisiens, mais à part Borloo, qui était la dernière figure nationale du parti radical, on ne peut pas dire que le parti radical marquait beaucoup les esprits nationalement. Alors localement, il était très puissant, il avait quand même un groupe, il a toujours d'ailleurs un groupe au Sénat, donc ça ne représente pas personne non plus, mais hier, le parti radical a été complètement bouffé. Depuis longtemps. Radical dans son centrisme. Oui, le radicalisme, c'est, il ne faut pas le confondre avec la radicalité, c'est pas la même chose. Le radicalisme est une école de pensée politique française qui a été particulièrement puissante sous la Troisième République. À un moment où se structurait justement le parlementarisme et la République. Et ça s'est transformé au cours du XXe siècle en une force centriste, républicaine, laïque, libérale. Libérale, mais pas seulement. Enfin, si tu écoutes Hervé Marseille, etc., il t'explique quand même que la sécurité sociale, c'est aussi ce qui fait la force du pays. C'est pas seulement le PIB qui doit compter. Donc. Voilà. C'était l'ancienne extrême gauche au 19e siècle. Alors, bah, les radicaux, dans la deuxième moitié du 20e siècle, étaient radicaux, ils avaient de la radicalité. Et leur radicalité, c'était la République. Ils étaient radicalement républicains. C'est pour ça qu'on les appelait les radicaux. Ils n'étaient pas prêts à un compromis avec les bonapartistes, avec les monarchistes, avec je sais pas qui. Allez vous faire foutre, la France sera une république, c'est plié. C'était ça leur mantra. Et à l'époque, effectivement, ils étaient à l'extrême gauche du paysage politique français, mais à un moment où le marxisme n'existait pas encore vraiment. Enfin, voilà, le mouvement ouvrier commençait à arriver. Et c'est pour ça d'ailleurs que les radicaux ont arrêté d'être d'extrême gauche, c'est qu'ils sont restés sur leur base républicaine. Et il est né à côté d'eux un mouvement encore plus à gauche qui était les socialistes. Les socialistes, bah, eux, ils étaient révolutionnaires. Ils étaient marxistes, ils étaient avec Proudhon, ils étaient pour les mouvements syndicaux, pour la grève générale, pour la révolution internationale, etc. Les radicaux, à côté de ça, ils passaient pour des centristes. Ce qu'ils sont devenus. De fait, les radicaux sont devenus centristes. Et c'est pour ça aujourd'hui que vous les retrouvez plutôt au centre de l'échiquier politique. Socialiste extrême gauche, ça me fume. Ah, mais ça, c'est parce que faut que tu ouvres un livre d'histoire. C'est sinistrissime. Bon, non. Le libéralisme, c'est le centre. C'est pas que le centre, mais le centre français, historiquement, est plutôt un défenseur, effectivement, de la propriété privée, de l'initiative individuelle, du mérite. Donc oui, le libéralisme économique fait partie des valeurs qui sont prônées par le centre. Ils deviennent quoi le PRG? Parti radical de gauche? Bah écoute, ils ont toujours un groupe à la, ils ont toujours un groupe au Sénat, hein. À mon avis, ils s'ambiancent dans les loges maçonniques, hein. C'est à peu près le dernier endroit où ils existent. Je suis méchant. Mais ils sont toujours alliés du Parti socialiste. Bernard Tapie était au PRG. Ouais, dans les années 80. Ça remonte, hein. Taubira en 2002, oui. Le PRG et le PR ont refusionné dans le mouvement radical. Alors, moi, ça, c'est ce que j'avais suivi, mais j'avais suivi aussi que le PRG et le PR, oui, parce que, alors, bon, bref, dans la grande histoire du radicalisme en France, il y a eu une scission à un moment entre le PRG et le Parti radical valoisien. PRV, qui est en gros le Parti radical de droite. Donc il y avait le Parti radical de droite, le Parti radical de gauche. Le Parti radical de gauche était l'allié du Parti socialiste et de François Mitterrand, et le Parti radical de droite était plutôt l'allié des mouvements. De l'UDF, du RPR, etc. Et ils ont passé leur temps à se faire des bisous, puis à se redétester, puis à se refaire des bisous et tout. Puis à un moment, ils ont refusionné, je me souviens. Et un mois plus tard, on a appris qu'ils se rescissionnaient et qu'après, ils se remettaient ensemble. Compliqué, hein, compliqué. Couple toxique, ouais. Ouais. Et les groupes trotskistes alors? Putain, c'est encore plus compliqué. Non, mais quand tu commences à diguer un peu dans les mouvements politiques en France, tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont fait des thèses entières d'histoire uniquement sur. Le lambertisme. Ouais. Tu dis qu'il y a des gens qui sont ultra calés et quand tu essayes de suivre un peu ça de loin, c'est toujours très complexe. D'ailleurs, il me semble que le PRV est dans sa structure juridique le plus ancien parti politique encore en activité. Oui, le PRV est le plus ancien parti politique de France. Le PRV, il a été fondé en 1901. Les amis, il est 20h. Il est 20h et j'ai très envie d'aller aux toilettes. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je reprends demain sans doute avant l'UMA. Merci d'avoir été là. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Et probablement à demain. Et puis sinon, je vous rappelle encore une fois, samedi prochain, à l'UMA, 18h, la reprise de Backseat pour la saison 4 et la sortie de mon livre le 25 septembre. Les jeunes, c'est le présent. Lisez-le, c'est bon pour la santé. À très bientôt, salut tout le monde!